Et bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur les ondes de Radio MDM. Et très chers amis, quelle bonne idée vous avez là, au téléphone avec nous, invité du jour, Marc Large. Bonjour Marc.
Salut Jean-Loup, ça va?
Ouais, très bien, et toi? Alors justement, j'allais te retourner à la question qui n'est peut-être pas aussi innocente que ça. Comment vas-tu Marc?
Ça va très bien, ouais. Ça va. Je rebondis, comme on dit, dans le basket landais.
Ouais.
Donc, ça va. Je m'organise pour continuer à dessiner et puis avec quelques projets, voilà.
Bon, vous savez évidemment, très chers amis, que la période a été peut-être, alors je ne sais pas si je dis tourmentée, c'est peut-être un euphémisme, mais je ne sais pas si c'est le mot adéquat. Alors, il y a de l'actualité, Marc, avec la sortie de Le coup de crayon 2020, paru aux éditions Passiflore tout récemment, qui amène un petit peu plus d'effervescence, parce qu'il y en avait déjà pas mal, au moment où on a appris, comme vous toutes et tous, ce qui s'était passé un petit peu dans l'univers du journal Sud-Ouest, et ce qui en a suivi. C'est à cette période-là que je faisais allusion en te demandant quelques nouvelles, parce que j'imagine que tout ça, ça a dû être sacrément difficile, Marc.
Oui, ou après c'est dans l'air du temps, je ne suis pas le seul malheureusement. C'est à la mode en ce moment de licencier facilement, et de profiter de cette crise sanitaire pour faire des économies du lest dans les ressources humaines, comme ils disent.
Mmh.
C'est un terme que j'ai jamais eu.
Ouais,
les ressources humaines.
Ouais, une sorte de novlangue comme on aime, Marc.
il s'est passé cette dirais anecdote, parce que c'est très... C'est l'époque, c'est comme ça. C'est, ça faisait 30 ans que je travaillais pour Sud-Ouest, que j'étais dans les colonnes, qu'il y avait une bonne complicité qui s'était établie avec les lecteurs et les gens du terroir qui est attaché à Sud-Ouest, faut le dire. Même si, on les lit de plus en plus pour la rubrique chronologique, le sport. et l'édito, quand même, le dessin, il était attendu. On l'avait vu dans des études, je sais plus comment ils disent, de médiamétrie. Et puis c'était un petit rendez-vous quotidien où le dessinateur de presse venge un peu le lecteur, établit une complicité avec lui, quoi. Et j'aimais bien ça. Et donc au bout de 13 ans de travail quotidien, j'ai osé demander un contrat et j'ai reçu une lettre de licenciement en réponse. Et sur le coup, ça surprend. Et puis, moralement, c'est assez difficile. Enfin, il faut se dire qu'il faut chercher un autre boulot. Et puis, le dessin, je l'ai dans la peau, quoi. Donc, je continue.
Il y a une période, Marc, qui a suivi tout ça, où tu as disparu de tous les réseaux sociaux, parce que c'est vrai que c'est quand même un univers est presque incontournable quand on est un petit peu comme j'allais dire comme nous, même si on ne fait pas dans la même catégorie, Marc, dans l'univers de la communication, des médias, etc. Tu as voulu te préserver pendant cette période-là pour laisser passer un petit peu de la vague qui a peut-être dû te submerger à ce moment-là, Marc.
Oui, et puis j'ai une très très bonne avocate qui a travaillé avec Ciné, Charlie Hebdo, Fluide Glacial, qui connaît bien l'univers du dessin et les méthodes de certains patrons. Donc elle m'a recommandé de faire un peu le mort, parce que dans ces cas-là, il y a des gens qui sont payés pour aller fouiller tout ce qu'ils peuvent et puis essayer de trouver quelque chose à me reprocher. Et puis après, au bout du compte, le dossier il est solide pour nous. Il n'y a pas de raison, quoi. Donc je suis réapparu il n'y a pas longtemps avec l'annonce de ce livre et puis un prix là, du Club de la Presse.
Et oui, c'est ça, on a l'évoqué, ça a dû évidemment te faire plaisir. Je n'ai pas su chercher la reconnaissance, je ne sais pas, mais c'est toujours utile que d'être reconnu comme ça sur un prix, ça a dû te mettre un petit peu de gaz d'encouragement. C'est pas le bon mot non plus, tu as compris ce que je voulais dire, Marc.
Oui, c'était assez inattendu et d'ailleurs sur le coup je me suis demandé s'il voulait pas faire un petit clin d'œil à Sud-Ouest, le club de la presse, donc c'est une institution très très vieille qui récompense des grands journalistes. Il y a le prix de la meilleure enquête, du grand reporter, tout ça, et ils ont aussi une récompense pour le dessinateur de presse. Et puis là, dans ce tourbillon-là, ils ont pensé à un dessin que j'avais fait dans Sud-Ouest, justement, sur l'ouverture du procès de Charlie Hebdo. Et ça m'a touché, oui, à plus d'un titre, puisque bon, Charlie Hebdo, c'était les copains. Et je l'ai vécu de plein fouet il y a 5 ans, ce qui s'est passé. Et puis il y a toujours cette nécessité de défendre une liberté d'expression, ouais, de pouvoir parler à la place de ceux qui ne peuvent pas parler. Et ouais, c'est précieux. Et on s'en rend compte encore aujourd'hui. Ce matin, quand j'ai ouvert l'actualité, j'ai vu comment était traitée l'information. Avec des violences policières qui sont réelles. Et oui, ça m'inquiète. Et dans ces cas-là, il y a une petite colère. Et puis, il faut trouver le bon gag qui fasse rire quand même. Parce que le rôle, c'est aussi de désacraliser, ou pas de dédramatiser, mais de se dire, voilà, on va pas nous prendre pour des cons. On sait ce qui est fait. Et on a le droit de le dire, et alors disons-le.
Ouais. En tout cas, ça a été un plaisir, Marc, que de retrouver tes croquis et tes desserts, alors, notamment sur les réseaux sociaux. Où est-ce que ça en est? Quel est le calendrier, Marc, par rapport à cette histoire et à ces mésaventures, Marc? Il y a un programme de prévu au niveau judiciaire ou autre, dis-moi.
Oui, bien sûr. Alors... Bon, sur le coup de la surprise de recevoir ce courrier, j'ai appelé mon responsable direct qui... Ouais, où je suis tombé du placard parce qu'il me parlait comme si on... Je sais pas, moi je pensais qu'on était potes depuis une quinzaine d'années, et puis là j'entends « Ouais, mais Marc, t'es sur la période des bisounours, oui, ça se passe plus comme ça, non ?» Ituria, c'était l'époque dorée, avec les trucs humanistes, tout ça. Enfin, de toute façon, je sentais que ça faisait un moment que... ligne éditoriale changée, que ouais, comme beaucoup de titres, ils vont dans le sens du pouvoir, et puis mes dessins étaient recalés de plus en plus, et puis ouais, ça a été la douche froide. Et puis après, l'avocate, comme dans litige comme ça, elle a essayé de négocier quelque chose d'amiable. Ils ont refusé, ils veulent aller au prud'homme, parce que faut surtout pas dans ces cas-là que je serve d'exemple aux autres pigistes précaires. Sauf qu'ils sont tombés sur un os, je suis un peu fou, hein, donc pas... Je vais aller au bout, et pour les autres pigistes précaires aussi, ouais, leur dire, attendez, il y a des droits, même si la loi travail, elle a bien attaqué nos libertés, puisque, enfin nos droits, hein, puisque maintenant on peut revenir que 3 ans en arrière avec la loi Macron. Là. Mmh. Donc voilà, je me demande toujours pourquoi les gens votent comme ça, je comprends pas. Pourquoi les Français se punissent constamment. Voilà. Donc on va faire valoir la loi, et puis tout simplement, il y a la loi Tressard en France, hein, qui est claire sur le statut de pigiste régulier, quotidien, après 13 ans de boulot, on ne fout pas quelqu'un dehors comme ça. Bon, voilà, ils veulent aller au prud'homme, on va y aller. Comme ils m'ont dit, ça va durer 3-4 ans peut-être, et je toucherai des clopinettes, c'est pas grave, c'est par principe. Mais voilà.
T'as évoqué, Marc, l'époque Ituria qui est dans la préface avec Bruno Solo de le coup de crayon de 2020, qui est sorti vendredi, c'est ça, aux éditions Passiflore, Marc?
Oui, j'aime beaucoup Ituria, Bruno Solo aussi, il a des racines irlandaises, sa famille irlandaise, c'est La Salle, son vrai nom. Et puis Ituria, oui, parce que c'était un exemple de... Effectivement, ça a été une... de belles années de dessins de presse, hein, les années 70, 80. Bah, la presse en général se porte mal, elle a tout misé sur la pub et puis elle s'est laissée doubler par, par les réseaux sociaux, justement, elle n'a pas su s'adapter. Il y a un simple exemple, hein, Sud-Ouest n'a toujours pas de boutique en ligne pour ses bouquins, et c'est aberrant. Je me souviens, on parlait d'un livre qu'on avait fait chez Sud-Ouest sur France Inter, et au moment où le journaliste me demande où se procurer le livre, je ne savais même pas lui dire. Quoi.
Ah oui, pas ouais. Mmh.
Donc après, il ne faut pas qu'il s'étonne d'être un Titanic qui sombre. Quoi. C'est triste. Et il ne mise pas sur la qualité des gens. Il y a de très bons journalistes. Maintenant, il faut tout faire vite, piocher sur Twitter et il n'y a pas d'enquête approfondie, il n'y a plus les prix Albert Londres, il y avait des grands reporters, des grands journalistes, tout le monde maintenant c'est des actionnaires qui se disent voilà, on va mettre une pub pleine page toutes les quatre pages et envoyer des gens faire du porte-à-porte pour essayer de dégoter des abonnés parmi les personnes âgées ou vulnérables, c'est honteux ça. C'est pas le journalisme que j'aimais.
Ou alors il faut vraiment aller la chercher, l'information un petit peu à la marge, ouais. Soit tenté de dire, sans mais faire de faux jeux de mots avec marge large.
Non, mais il y a des médias parallèles comme vous voilà, qui font le boulot localement, c'est bien. Moi je crois toujours au local. Je crois toujours que les forces globales arriveront par le local. Quoi. Aujourd'hui, je me dis, si on s'en sort politiquement et tout, ce sera par les maires, les régions, les départements. Il ne faut plus compter sur Paris, quoi. C'est dépassé.
Je me permets de partager cette vision, Marc. Et ça a été d'ailleurs, tiens, puisque j'en cause et que tu as presque causé basket en ouverture de notre propos, du match de Basketland qu'on a eu le plaisir de retransmettre ou de participer à cette initiative avec une partie de l'équipe de Eurofilm d'Axe, avec beaucoup, beaucoup d'anciens d'Allegria qui étaient là, Marc. Ça a fait bien plaisir parce que tu étais forcément de cette partie. Et pour revenir, tout ça, pour revenir à ce que tu disais, ce me semble donc de ces forces vives qui sont là, qui sont tout à côté de nous qui sont dans notre département. Alors, sans faire des larmes pour les Landes, quoi. Mais que ce local sera une des solutions. Des solutions. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose autour de ça, Marc. Hein.
Oui, tout à fait. Et puis, je crois beaucoup en l'esprit gascon. Là. J'aime bien Ituria. Il m'a dit, mais moi, j'aurais reçu cette lettre. Là, il se l'a bouffé, quoi. Voilà, c'est un vieux de la vieille, comme j'aime bien, on ne lui fait pas à l'envers, et il n'a pas peur. J'aime bien les gens qui n'ont pas peur.
La gasconitude aussi, parce que ça aussi, c'était une de tes actualités il y a quelques mois de cela, avec la sortie autour de Félix Arnaudet, où tu étais en train de présenter la suite de cette belle aventure, Marc. Il y avait des photos et des textes inédits de Félix Arnaudet sur cet épisode 2, serais-je tenté de dire.
Oui, alors lui, je l'admire depuis toujours. C'est le Landais par excellence qui a tellement aimé sa langue qu'il lui a consacré sa vie et contre tout, c'est contre tout. Alors, ce qui est touchant, c'est que oui, à l'époque, on le prenait pour un fada, pour l'oupec, parce que c'était, voilà, les gens bossaient dur et tout, ils le voyaient aller venir en vélo, faire des photos. Il y avait une forme d'affection total envers lui, et d'autant plus quand il est mort et qu'ils ont découvert son œuvre magistrale et qu'ils lui ont rendu hommage en éditant au temps des échasses ce grand ouvrage rare et très cher d'ailleurs qu'on trouve incomplet sur des sites marchands. Et donc on a ressorti ce livre qu'on a appelé Félix Arnaudet 100 ans après avec les 100 photographies qui avait été retenu après sa mort pour lui rendre hommage. Et ouais, c'est touchant comment les Landais, après, l'ont réhabilité, quoi, avec beaucoup de regrets, mais c'est une histoire très romantique. Hein. Félix Arnaudet, c'était quelqu'un qui était persuadé qu'il voyait juste, il était très avant-gardiste, très visionnaire. Et voilà, il n'a eu qu'une reconnaissance posthume. Mais tant mieux pour lui, parce que je crois qu'il n'aurait pas, aimait la célébrité. C'était quelqu'un de très distrait, qui était consacré à son œuvre. Ouais. Très intéressant.
Tu serais pas, mon cher Marc, un petit peu dans la lignée du Peck, sans vouloir tout trajet, hein, tu serais pas un peu le... Il y a un petit côté Peck, peut-être, non, chez Marc. Peut-être pas la même chose que Félix Sandoder, mais il hein, y a un petit peu de ça, ce me semble. Hein.
Oui, certainement.
Alors,
dans ce sens-là, dans le sens Peck, mais après, non, il était trop bosseur pour moi.
tu l'es un petit peu moins, Marc, ok. Il y a la liaison téléphonique qui est un petit peu moyennote, mon cher Marc. J'aimerais quand même qu'avant qu'on retrouve Renaud, mais justement, en parler de Renaud, parce que ça aussi, ça faisait partie de tes projets avec un court-métrage qui était en préparation. Est-ce que ça n'était avec l'ami Johanna Turpo qui t'accompagnait sur ce projet?
Oui, on y travaille. Je suis désolé, alors ça capte mal, tu m'entends mal ?
Ouais, c'est-à-dire que parfois c'est un peu... Non, mais ça va, on distingue tes propos, mais de temps en temps, non, c'est... Bon, je me mets à la place de l'auditrice, auditeur, mais voilà, on t'entend quand même, Marc. Hein.
D'accord. Oui, on a ce projet qu'on a commencé à développer il y a un peu plus d'un an. Alors, Renaud, il sert de prétexte à cette histoire. Ça s'appelle « Le retour de la suite ». Il y a tout le descriptif sur Ulule où on explique le concept du film. Mais en fait, on utilise ces premiers personnages. Germaine, Gérard Lambert, La Pépette, tout ça. C'est une histoire un peu nostalgique. Hein. Justement, on se rend compte de ce qu'on a perdu depuis les années 80 en liberté d'expression, en liberté tout court. Quoi. Et inconsciemment, où les gens se sont autopunis, je dirais, avec la peur. De toute façon, c'est la peur, ça fait faire des catastrophes, y compris au niveau politique. Donc voilà, ce film, Renaud, il est en toile de fond, mais c'est pas du tout un biopic, on ne s'intéresse pas à lui dans ce film. Hein, c'est assez particulier. C'est une intrigue psycho, c'est un polar, là, et avec aussi de la comédie, en fait, du rire.
Bon. On aura des nouvelles très vite à vous donner. On est en train tout petit peu de te perdre, mon cher Marc, sur la liaison téléphonique. De toute façon, on suivra évidemment tout ça. Il y a un calendrier, Marc, sur la sortie de la suite. La suite, le financement participatif, c'est bouclé ou pas? Ou rappelle-moi ça, Marc.
Oui, il y a eu un financement participatif qui est bouclé. Là, on n'a a priori pas d'aide de la région du département. Donc, on va débrouiller autrement.
Ouais.
Mais on va le faire. On va le faire. Il y a une super équipe, il y a un casting de copains, Daniel Prévost, Bruno Solo, justement, plein d'acteurs, d'actrices, Juliette Arnaud, etc. Enfin, voilà, des gens qu'on voyait à Satire Adax et dans l'univers de la satire. Ouais.
Mais dans l'idée qu'on va se régaler, Marc, lorsque cette aventure avec Johanna Turpo sortira donc autour des personnages Gérard Lambert, La Pépette et les autotamponneuses. plein de surprises à venir. Merci beaucoup, Marc, de nous avoir accordé un petit peu de ton temps précieux. Qu'est-ce qu'il va se passer aujourd'hui pour toi? Tu as du croquis à croquer, à dessiner dans la journée encore? Ou est-ce que tu en es par rapport à ça?
Moi, je me suis réveillé un peu en colère avec ce qui s'est passé hier soir, là, au moment où la loi... Le sécuritaire là, doit être voté sur l'interdiction pour les journalistes de filmer ce qui se passe dans une intervention policière. Là, ça sent mauvais quand même. Ben, j'ai vu là, les réfugiés qui se faisaient virer de leur tente et tout ça. Bon, et des journalistes qui se faisaient maltraiter. Ouais, j'aime pas, ça me fout en colère. Donc j'ai dessiné un des borniers qui dit, de toute façon, flic flouté ou pas, ça change pas grand-chose pour moi. En gros, ouais. voilà. Il y a des dessins parfois sur le coup de la colère.
Ouais, ouais.
J'ai rencontré un réfugié malien quand je séjournais au Maroc et j'ai vu toute la détresse, la douleur, tout ce à quoi nos politiques les ont amenés aussi avec nos interventions catastrophiques en Afrique parfois. Et quand tu vois un type qui est prêt à mourir, t'as rien à perdre, qui va traverser la Méditerranée, qui a une chance sur deux de la traverser, parce qu'il veut simplement vivre ou donner à manger à ses enfants, ben, je sais pas. Je sais pas comment ça peut laisser un différent, quoi. Et puis on n'a pas fini, on verra débarquer les Esquimaux à force de faire fondre leur glacière. Donc c'est barjot, quoi. Ça me révolte.
à suivre sur alors les réseaux sociaux hein, pour Marc Large, pour voir tous les croquis désormais. Donc, faudra passer par tout ça. Les colères salvatrices de Marc Large, si je puis me permettre. Merci beaucoup, Marc.
Merci.
Beaucoup,
merci à vous.
Beaucoup de courage pour la suite. Et puis, évidemment, Marc, on suivra toutes ces aventures avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a les fêtes de fin d'année. Donc, voilà, il y a du Marc Large côté Félix Arnaudin, côté dessin pour cette édition non sortie ou des éditions Passiflore. Le coup de crayon.
Oui, le coup de crayon de 2020. Ouais.
Très bien. Ouais. Bonne journée, Marc.
Ouais. Merci.
On t'envoie un grand bonjour et un grand bisou de toute l'équipe de Radio MDM. Tu m'as dit, le hexagone de Renault, mon cher Jeannot, c'est indémodable.
Adichat.
Ils s'embrassent au mois de janvier car une nouvelle année commence. Mais depuis des éternités, elle a pas tellement changé la France. Passent les jours et les semaines, y'a que le décor qui évolue. La mentalité est la même, tous des tocards, tous des faux culs. Ils sont pas lourds en février à se souvenir de Charonne, des matraqueurs assermentés qui fignolèrent leur besogne. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue y'en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Quand on exécute au mois de mars, de l'autre côté des Pyrénées, un anarchiste du Pays Basque pour lui apprendre à se révolter. Ils crient, ils pleurent et ils s'indignent de cette immonde mise à mort, mais ils oublient que la guillotine chez nous aussi fonctionne encore. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône, je parierais pas qu'il est allemand. On leur a dit au mois d'avril, à la télé, dans les journaux, de pas se découvrir d'un fil, que le printemps c'était pour bientôt. Les vieux principes du XVIe siècle et les vieilles traditions débiles, ils les appliquent tous à la lettre, ils me font pitié ces imbéciles. Ils se souviennent au mois de mai d'un sang qui coula rouge et noir, d'une révolution manquée qui faillit renverser l'histoire. Je me souviens surtout de ces moutons effrayés par la liberté, s'en allant voter par millions pour l'ordre et la sécurité. Ils commémorent au mois de juin débarquement de Normandie, ils pensent au brave soldat ricain qui est venu se faire tuer loin de chez lui. Ils oublient qu'à l'abri des bombes, les Français crient et vivent Pétain, qu'ils étaient bien planqués à Londres, qu'il n'y avait pas beaucoup de Jean Moulin. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est pas la gloire en vérité. Et le roi des cons sur son trône, me dites pas qu'il est portugais. Ils font la fête au mois de juillet en souvenir d'une révolution qui n'a jamais éliminé la misère et l'exploitation. Ils s'abreuvent de balles populaires, de feux d'artifice et de flonflon. Ils pensent oublier dans la bière qu'ils sont gouvernés comme des pions. Au mois d'août, c'est la liberté, après une longue année d'usine. Ils crient vive les congés payés, ils oublient un peu la machine. En Espagne, en Grèce ou en France, ils vont polluer toutes les plages et par leur unique présence abîmer tous les paysages. Lorsqu'en septembre on assassine un peuple et une liberté au cœur de l'Amérique latine, ils sont pas nombreux à gueuler. Un ambassadeur se ramène, bras ouverts, il est accueilli. Le fascisme, c'est la gangrène à Santiago comme à Paris. Être né sous le signe de l'hexagone, c'est vraiment pas une sinécure. Et le roi des cons sur son trône, il est français, ça j'en suis sûr. Fini les vendanges en octobre, le raisin fermente en tonneau. Ils sont très fiers de leurs vignobles, leurs Côtes-du-Rhône et leurs Bordeaux. Ils exportent le sang de la terre un peu partout à l'étranger. Leur pinard et leur camembert, c'est leur seule gloire à ces tarés. En novembre au salon de l'auto, ils vont admirer par milliers derniers modèles de chez Peugeot qu'ils pourront jamais se payer. La bagnole, la télé, le tiercé, c'est l'opium du peuple de France. Lui supprimer, c'est le tuer, c'est une drogue à accoutumance. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais y'a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils rateront pas leur réveillon. Moi je voudrais tous les voir crever, étouffés de dinde marron. Être né sous le signe de l'hexagone, on peut pas dire que ça soit pendant. Si le roi des cons perdait son trône, y aurait 50 millions de prétendants.